quelques mots. Donc, cette tournée est organisée par l'AMEP, l'Association des Amis de la Mention Études Politiques de l'HESS, cofondée par Benjamin Riss, Félix Blanc, que je ne vois plus, Cynthia Saloum et moi, Marie Lombier. Nous avons maintenant de plus en plus d'adhérents et de membres, d'ailleurs très actifs, qui sont en nous aujourd'hui. Simplement, en deux mots, les objectifs premiers de cette association étaient d'abord de faire vivre des études politiques telles qu'on nous les a enseignées ici, en dehors de l'institution elle-même. Donc la journée d'aujourd'hui relève typiquement de ce premier objectif, puisque nous sommes regroupés autour d'institutions différentes, d'axes de recherche très différents les uns des autres, mais qui mettent au centre du propos cette pluridisciplinarité des approches qui, selon nous, est plus féconde que cloisonnante, comme c'est parfois malheureusement le cas dans le monde académique. Bon. Le second objectif, c'est de créer un réseau. Donc, toute école a son réseau. Et on trouve ça un petit peu préjudiciable que la mention études politiques, qui a su mettre en place une amitié réelle entre ses membres, ne puisse pas, par ailleurs, jouer dans un réseau professionnel. Et enfin, il s'agit aussi de, comme on dit, valoriser les savoirs qui sont les nôtres, y compris les diplômes, dans un monde qui n'est pas forcément académique non plus. À ce titre, nous organisons de temps en temps des petites après-midi ou des petites réunions avec des intervenants diplômés de la mention, mais qui ne sont pas forcément tous professeurs ou chercheurs, et qui travaillent par ailleurs dans le monde de l'expertise et qui ont des choses... Voilà. Bon, voilà, c'était vraiment tout. À l'issue de cette journée, pas tout de suite, mais nous vous enverrons un mail à tous, puisque vous avez eu la gentillesse de nous transmettre vos adresses, pour vous dire quand vous trouverez sur Canal U, le site internet de Canal U, l'enregistrement complet de la journée. Et à ce moment-là, nous vous inviterons, si vous le souhaitez, à vous inscrire si vous souhaitez être membre de l'association. C'est parfaitement gratuit, donc il suffit de partager l'esprit de la mention. On vous donnera toutes les indications pour vous assurer que vous partagez cet esprit. Donc voilà, vous pourrez à ce moment-là nous répondre. Et puis je vais laisser la parole tout de suite aux participants et aux intervenants de cette troisième table ronde de la journée. Donc, Sébastien Carré de l'Université catholique de Lille d'abord, puis Giulio Deligio du CESPRA, qui seront tous les deux discutés par Camille Froidevaux-Mettery, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Reims, et Pierre Manant, qui est directeur d'études à l'UHFS. Donc, contrairement à ce qui est indiqué, Pierre Manant et Camille sont tous les deux discutants pour les deux exposés qui vont suivre. Merci.
Merci Marie-Hélène. Je regrette presque d'avoir soutenu ma thèse il y a 20 ans aux ESPRA et pas aujourd'hui, parce qu'à l'époque, nous n'étions pas du tout dans cette belle dynamique amicale et scientifique. Et je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est une initiative bien heureuse et les doctorants du ESPRA d'aujourd'hui ont bien de la chance. Voilà, écoutez, j'en dirai peut-être plus sur le thème de la journée en réagissant aux exposés. Je donne donc tout de suite la parole à Sébastien Carré.
Bien, je vais essayer de le faire sans micro. C'est plus simple, je pense.
Oui, en fait, c'est pour l'enregistrement.
D'accord. Et si je parle comme ça, ça va ?
Oui, je pense. Bon.
Alors, je remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir invité. Lorsque Benjamin Riss m'avait demandé de lui communiquer un titre, j'avais fait le choix, par paresse ou par lâcheté, de lui donner un titre assez large, qui avait l'inconvénient de paraître particulièrement immodeste, mais qui me donnait l'occasion, en tout cas un petit sursis, pour délimiter davantage le sujet. Alors, l'heure est venue de resserrer ce sujet, et je voudrais le faire aujourd'hui. Ce que je voudrais essayer de vous présenter, c'est une étude en cours, donc ce n'est pas du tout la restitution d'une recherche, mais plutôt un projet de recherche, qui concerne plus particulièrement les politiques environnementales que l'on peut qualifier en première approximation de libérales, et d'établir sur ce terrain assez particulier un dialogue entre deux champs de recherche qui s'ignorent et qui gagneraient pourtant à échanger, à savoir l'éthique environnementale et une sociologie des instruments de lutte contre la pollution. Il s'agit donc d'un dialogue dont l'enjeu méthodologique mérite d'être interrogé au préalable. C'est ce que je ferai en guise de longue introduction ou de longue première partie. Je ferai un peu comme Caroline Bernizzi ce matin, avant de présenter l'étude de cas proprement dite. Alors, commençons par les termes du dialogue. Alors, le propos de cette journée, si je l'ai bien compris, dans la présentation scientifique qu'on nous avait transmise, était d'établir les conditions d'un dialogue entre, disons, d'un côté, l'une ou l'ensemble des trois disciplines que seraient la théorie politique, l'histoire des idées et la philosophie politique, et de l'autre côté, les sciences plus empiriques, disons les sciences sociales. Et il me semble que derrière ce dialogue, d'ordre épistémologique, se trouve en fait engagée une relation ontologique entre, d'un côté, ce qu'on pourrait rassembler sous le terme vague d'idées, hein, la théorie, la pensée, le texte, et de l'autre, la réalité sociale, hein, l'empirie, les faits, le contexte. Eh bien, je pense qu'en prenant le risque de schématiser à l'excès, on peut considérer que la relation entre les deux pôles peut être explorée dans deux directions opposées et selon deux méthodes distinctes. Deux directions, alors c'est pour ça que j'ai encore Paul, je ne suis pas un adepte de la chose, mais ça me permet de présenter des tableaux, et l'autre relation, donc, des idées à la réalité sociale. Et puis deux méthodes que je qualifierais là aussi de manière assez brève, hein, d'explicative et de compréhensive et ou interprétative. Alors, la première de ces approches, que l'on peut qualifier d'explicative, s'attache à établir un rapport de causalité entre les deux pôles. La première perspective, qui prend les idées comme variables dépendantes, s'attache à examiner les conditions sociales de leur formation et postule, d'une certaine manière, que les idées ne sont pas des objets clos sur eux-mêmes, mais le produit de structures sociales. Hein, on postule, par exemple, que l'auteur n'est pas autonome, mais que ce qu'il écrit vient toujours d'un arrière-plan, pardon, qu'il s'agit de dévoiler. Alors, les lectures marxistes, hein, en histoire des idées, et dans une moindre mesure, ceux qui font de l'histoire sociale des idées, sous le patronage de Pierre Bourdieu, ou encore aux États-Unis ceux qui développent la nouvelle sociologie des idées, comme Charles Kalmick et Neil Gross, hein, bon, s'inscrivent dans ce projet de lecture. Une seconde sociologie explicative va appréhender la relation dans l'autre sens, hein, en prenant cette fois les idées comme variables indépendantes, et donc en s'employant à en apprécier l'influence dans le développement des sociétés. Alors, un exemple, hein, en donner d'autres, mais un exemple de ce type de perspective, ce serait, par exemple, en politique publique, les analyses dites cognitives, hein, celles que défendent, par exemple, Peter Hall et Paul Sabatier, ainsi que Pierre Millet en France. Bien. Alors, l'inconvénient de ces méthodes, j'ai pas le temps de les passer tout en revue, mais ce serait peut-être qu'elles ont tendance à rabattre une sociologie des pensées sur une sociologie des penseurs et de ne pas toujours ouvrir la boîte noire des idées dont elles cherchent à apprécier l'influence. Seconde manière de faire dialoguer les deux pôles appréhenderait la relation selon un paradigme compréhensif de type, disons, weberien. On en trouve tout d'abord une conceptualisation forte chez Quentin Skinner, dont on a parlé ce matin, qui a surtout développé le premier versant du rapport évoqué. Hein? Bon. J'ajoute que la perspective de Skinner n'est pas explicative. Hein? Skinner rappelle souvent que le contexte n'est pas pour lui une manière d'identifier les causes, hein, dans l'environnement social de l'auteur qui permettrait d'expliquer le texte. Hein? Son but est simplement de saisir le sens du texte par un détour. Et alors, bien qu'il évoque un rapport circulaire entre le texte et le contexte, Skinner a surtout appréhendé la relation qui va du premier au second. Et il me semble que l'on pourrait aussi tirer profit à développer une recherche non explicative allant des idées aux faits. De même que la connaissance du texte social, du contexte social, pardon, est nécessaire pour Skinner pour statuer sur le sens d'une théorie, eh bien, on pourrait aussi considérer que le sens des idées est nécessaire pour statuer sur celui de la réalité sociale. Hein, Skinner parle par exemple d'une insuffisance ontologique du texte, hein, qui ne contiendrait pas en lui-même tous les éléments nécessaires à son élucidation. Eh bien, on pourrait aussi essayer de considérer que le contexte ne contient pas, lui non plus, qu'il y a une insuffisance du contexte qui ne contient pas, lui non plus, tous les éléments nécessaires à son élucidation et qu'un détour par la philosophie ou par l'histoire des idées pourrait s'avérer nécessaire. Et cette approche, qui va du texte au contexte dans une perspective compréhensive, voire interprétative, me semble correspondre à la démarche d'un auteur dont on parle finalement assez peu en France, hein, qui s'appelle Marc Bévin, et qui a la particularité assez rare d'être à la fois philosophe et sociologue de l'action publique, et d'avoir été le premier avant le second d'ailleurs, et d'avoir développé en histoire des idées et en sociologie de l'action publique deux méthodes distinctes. et je m'intéresserai notamment à la méthode qu'il développe en sociologie de l'action publique, hein, la méthode qu'il qualifie lui-même d'interprétative, qu'il a appliquée avec son collègue Roderick Rhodes à l'étude du thatcherisme et au concept de gouvernance. Donc c'est un peu dans cet esprit que je vais maintenant essayer d'appréhender mon cas d'étude dans une démarche donc à la fois interprétative et soucieuse d'éclairer le sens d'une réalité observable à la lumière des idées. Alors, à première vue, mon approche, en raison notamment de son objet, puisque vous verrez qu'il s'agit finalement d'un instrument d'action publique, semble s'inscrire dans une perspective que l'on qualifie de sociologie des instruments de l'action publique, hein, développée dans la politique publique, notamment en Angleterre, par quelqu'un comme Christopher Hood, et en France par Patrick Le Gallès et Pierre Lascaux, pour ne citer que. Approche qui part du constat, bon, assez difficile à contester, que les instruments d'action publique ne sont pas neutres, hein, ne sont pas axiologiquement neutres, et indifféremment disponibles. Et qui se donne ensuite donc un programme de recherche articulé en deux temps. Donc, les raisons qui poussent à retenir tel instrument, et ensuite leurs effets. Hein, donc, la carrière des instruments et ses effets. Alors, d'accord avec ces deux moments, finalement, mais il y a une faiblesse, souvent, dans ces sociologies des instruments d'action publique, qui consiste à ne pas découpler les deux moments de la recherche et à ne pas envisager la possibilité d'un découplage entre, d'un côté, les motifs qui président à l'adoption de tel ou tel instrument et le sens que cet instrument véhicule. Et, par exemple, c'est souvent l'épithète qui vient qualifier la notion d'instrument, c'est celui de néolibéral. Et à quoi on reconnaît un instrument néolibéral? Tout simplement au fait qu'il ait été voulu, décidé ou mis en œuvre par des acteurs identifiés comme étant néolibéraux. Or, et c'est ce que je vais essayer de montrer, l'exemple que je vais vous donner, celui donc de l'instrument des quotas d'émission, un instrument de lutte contre la pollution, a un sens qui ne peut pas être saisi par une telle approche, hein, qui est malheureusement explicative. Car en effet, cet instrument, qui est aujourd'hui de plus en plus privilégié, doit moins son succès à une adhésion généralisée et assumée à l'éthique qu'il véhicule qu'au pragmatisme de ses promoteurs. Il a été adopté notamment aux États-Unis en 1990 pour lutter contre les puits acides, hein, et a été mis en place pour les émissions de SO2 parce que c'était une manière de ne pas contrarier les lobbies. Et en Europe, hein, il existe depuis 2005, hein, il a été adopté en 2003, il existe depuis 2005, parce que c'était une manière de contourner la nécessaire unanimité en matière fiscale au niveau européen, hein, et donc à l'impossibilité d'instaurer une écotaxe. Donc l'hypothèse d'un découplage entre les deux nous invite à opter pour une approche plus interprétative que cognitive, hein, des instruments de l'action publique, et donc de dégager le sens implicite d'instruments existants, et ce, indépendamment des raisons ayant conduit à leur adoption. Alors, j'en viens maintenant à mon étude de cas. Étude de cas qui s'articule en deux temps. Dans un premier, j'essaie de dresser une typologie inédite des éthiques environnementales en y faisant figurer ce qu'on pourrait désigner comme une éthique environnementale libérale. Puis j'entreprends de mettre en relation ces éthiques avec les instruments existants de lutte contre la pollution. Alors, première tâche, introduire dans le débat philosophique sur l'environnement la position libérale que l'on a, à tort, selon moi, tendance à évacuer trop rapidement en la considérant comme intrinsèquement hostile à la protection de l'environnement. Pour ce faire, je propose, en guise de bain révélateur, une typologie, là encore, qui est construite autour de deux critères. La valeur, tout d'abord, extrinsèque ou intrinsèque, que ces éthiques accordent aux choses naturelles, et enfin, ce à quoi cette valeur doit être rapportée, hein, s'il s'agit de l'individu ou de la société, donc distinct, holisme et individuel. En croisant les deux variables, j'obtiens quatre positions possibles. On aurait tout d'abord, et là la distinction est souvent faite, hein, deux types d'éthique environnementale qui accordent à la nature une valeur intrinsèque, c'est-à-dire non relative à l'homme. L'une, holiste, l'écocentrisme, accorde une valeur à l'écosystème dans son ensemble, hein, c'est la thèse défendue par exemple par Leopold et par son disciple Bert Kalkott, qui envisage l'environnement naturel comme un tout vis-à-vis duquel nous avons des devoirs. Et puis enfin, l'autre, le biocentrisme, plus individualiste, qui va conférer une valeur égale à toutes les entités vivantes. Hein, c'est la thèse de Paul Taylor, notamment, c'est la thèse de Tom Regan, qui dénonce le chauvinisme humain, hein, et qui propose de conférer un statut moral à toutes les entités qui ont la capacité à éprouver de la peine et du plaisir. Bien. Distinction bien connue en éthique environnementale. Mais ce que j'aimerais montrer, ce que ma typologie introduit comme nouveauté, c'est que de la même manière, et cette distinction est très rarement faite, hein, on pourrait aussi avoir deux types de doctrines qui estiment que la nature n'a aucune valeur en soi et qui ne lui accorde donc qu'une valeur extrinsèque, instrumentale, relative à l'homme, mesure de toute chose. Il y aurait d'abord ce qu'on pourrait appeler une éthique anthropocentrique, hein, défendue notamment par quelqu'un comme Brian Norton, mais qui se trouve être défendue, je pense, par une grande majorité de gens, considère que la nature a une valeur, certes, mais que cette valeur est toujours relative à l'homme. Mais l'homme est ici entendu au sens générique, hein, c'est-à-dire l'homme par-delà les générations et l'homme par-delà les frontières. On considère que l'homme, en ne respectant pas la nature, peut se nuire à lui-même et qu'il faut en conséquence, hein, inciter les hommes à protéger leur environnement, c'est-à-dire à les protéger finalement d'eux-mêmes, notamment contre les détériorations qui sont parfois conduites à porter contre la nature, détériorations qui menacent, de se retourner contre eux, contre leurs voisins ou contre leurs enfants. Ici, donc, la valeur des entités naturelles n'est pas intrinsèque, elle est relative aux hommes, mais elle est plus précisément relative à la communauté qu'ils constituent. Bref, la valeur de la nature est ici sociale et l'environnement est considéré comme un bien public. Mais il y a une quatrième et dernière position, plus individualiste, que je propose de qualifier d'égocentrique, qui va, elle, soutenir que les objets naturels ne peuvent avoir de valeur que pour leur propriétaire. Autrement dit, l'individu qui en fait usage et non donc à la société dans son ensemble. C'est la thèse, hein, que défendent aujourd'hui beaucoup de philosophes libertariens, avec l'idée que l'individu sait mieux que quiconque où se situe son propre intérêt, pardon, et qu'à ce titre, hein, on ne peut le forcer à se plier à des contraintes ou à des valorisations, à des hiérarchies des fins imposées de l'extérieur. Hein, la valeur, d'une entité naturelle, c'est celle que lui confère son propriétaire et c'est celle que permet de révéler l'échange libre, c'est celle que permet de révéler le marché. Bien. Voilà, très vite dit, ce qu'on peut dire de la typologie. Voyons maintenant, essayons de mettre en rapport ces éthiques environnementales avec les instruments existants pour lutter contre la pollution. Alors, on distingue en général, disons, trois instruments. On a tout d'abord les instruments réglementaires, hein, juridiques, ce qu'on appelle aussi command and control, hein, qui consiste à fixer des normes d'émission et à prévoir des sanctions en cas d'infraction. Hein. C'est, selon moi, le seul instrument que peuvent venir justifier les éthiques qui accordent une valeur intrinsèque à la nature. Mais il existe d'autres instruments moins rigides, que l'on qualifie souvent d'économiques, qui visent à internaliser les externalités négatives. Autrement dit, à faire en sorte que les agents économiques intègrent dans leurs calculs le coût des nuisances environnementales qui sont conduites à causer aux autres. Hein, et qui consiste donc à faire en sorte que les productions, les comportements qui ne valent pas les dommages environnementaux qu'ils causent, hein, soient découragés, voire abolis. C'est le principe du pollueur-payeur. Mais il existe en fait deux types d'instruments économiques et qui visent à internaliser l'externalité. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'instrument pigouvien, hein, qui correspond à l'écotaxe, et par lequel en fait une autorité centralisée va évaluer le coût social de la pollution et va fixer une taxe, hein, visant à corriger les défaillances du marché. Hein, on considère que la régulation se fait alors par les prix. Les prix antérieurs à la taxe étaient faussés, incorrects, et la taxe va rétablir la vérité des prix. Eh bien, cet instrument sous-tend que la nature n'a pas de valeur intrinsèque. Chacun est libre de polluer s'il est disposé à en payer le prix. Mais ici, l'environnement fait l'objet d'une valorisation sociale. Et la taxe correspond d'ailleurs précisément à cette valeur sociale. Et puis enfin, il y a un troisième instrument, donc celui dont je parlais tout à l'heure, l'instrument coasien, traduit souvent par cette formule de cap and trade, qui est l'instrument que met en place le système, le protocole de Kyoto, qui est le système qui existe aujourd'hui en Europe, en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Et selon cet instrument, on considère que l'externalité n'est pas une défaillance du marché, mais un défaut de droit. Elle est due finalement à l'absence de droit de propriété clairement défini. Alors, dans un tel système, le cap correspond à la limite de pollution autorisée, fixée par une autorité. Chaque participant se voit allouer un certain nombre de quotas d'émissions. Et le trade correspond ensuite donc au marché d'échange des quotas. Les entreprises qui veulent dépasser le plafond qu'on leur a donné doivent acheter des droits d'émission aux entreprises ou aux individus qui ne l'auraient pas atteint. Ce transfert de droits s'apparente donc à un commerce, il y a un prix qui est fixé par le marché. Alors, cet instrument est souvent choisi, il tente à se généraliser, et il est choisi pour plusieurs raisons. D'abord, pour son efficacité environnementale, car vous comprenez bien, il est très facile de prévoir les objectifs de réduction d'émissions, par une régulation par les quantités. Il a également un avantage économique, au sens où il n'est pas trop contraignant pour les entreprises, et parce qu'on sait aussi que la dépollution se fera là où elle coûte le moins. Et il a un avantage politique indéniable, qui est de ne pas contrarier les lobbyistes, et surtout, au niveau européen, c'est pour ça qu'il a été appliqué, c'était une manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, de contourner la règle de l'unanimité en matière fiscale. Bien. Le problème, c'est que l'éthique qui sous-tend cet instrument, qui est, selon moi, une éthique égocentrique, n'est jamais assumée et n'est jamais présentée comme telle. Et or, il existe une image qui est utilisé pour présenter ce dispositif et qui trahit bien, selon moi, l'éthique égocentrique qui sous-tend cet instrument. C'est l'image de la bulle atmosphérique, je vous en ai donné un schéma, je vais vous en donner plein d'autres, où on considère qu'il y a une bulle dans laquelle est défini un montant global maximum d'émissions nocives. Et on considère que si l'entreprise va au-delà, on considère qu'elle viole la propriété de quelqu'un d'autre, d'une autre entreprise, et qu'elle doit donc acheter un nouveau droit à celle qui n'a pas pollué toute sa bulle. Donc celui qui pollue plus de choses qu'il s'en est approprié ne porte pas atteinte à l'intégrité de ces choses, ni à la propriété de tous, mais à la propriété de quelqu'un d'autre à qui il doit réparation. Alors, c'est un instrument dont on n'assume pas l'éthique et qui en pose donc des difficultés. On n'interroge jamais donc, la manière dont, par exemple, cette éthique conduit à une marchandisation des entités naturelles. Et même ceux qui le défendent ne le défendent pas pour les avantages éthiques, et il y en a qui pourraient quand même être soulignés, qui est que cet instrument permet de résoudre à sa manière le problème lié au pluralisme des valeurs. Car on voit bien que le command and control, de même que l'instrument pigouvien, présente l'inconvénient d'imposer à tous une valeur partagée des objets naturels. Et peuvent ainsi privilégier une doctrine compréhensive au détriment des autres. Avec le cap and trade, c'est simple, on s'en remet au marché pour arbitrer de manière neutre les préférences individuelles. Les jainistes peuvent s'approprier autant de moustiques qu'ils souhaitent pour les protéger, les musulmans peuvent acheter autant de moutons pour l'aider avec les bibles, ouais. Chacun fait ce qu'il veut, et même les associations, vous verrez, je conclurai là-dessus, peuvent acheter ces quotas d'émission pour les retirer du marché et les neutraliser. Donc l'idée est simple, on ne peut protéger que la nature que l'on possède, ou la réciproque, pour protéger la nature, il faut d'abord se l'approprier. Alors, pour conclure, je ne sais pas si je dépasse, en 2 minutes, 2 remarques conclusives. Une première pour vanter les mérites de cette méthode interprétative, qui permet, à mon sens, de révéler un sens qu'une approche purement explicative n'aurait pas pu dessiner. On l'a vu, cet instrument, je l'ai dit, est souvent employé pour des raisons indépendantes du sens qu'il renferme. Et, à mon sens, les mailles du filet de la sociologie cognitive de l'action publique ne sont pas calibrées pour capturer un tel sens. Et cette méthode interprétative a aussi le mérite de montrer que les idées ne transitent pas nécessairement par leurs promoteurs et peuvent aussi circuler clandestinement par d'autres biais. Elle a aussi l'avantage de bien montrer la manière dont opère et s'applique aujourd'hui un libéralisme qui finalement ne dit pas, ou ne dit plus son nom. En revanche, j'aimerais souligner que cette approche ne vise pas du tout à se substituer à une approche explicative, qui pourrait même, tout au contraire, venir avantageusement la compléter. Par exemple, l'hypothèse interprétative que je soumets peut facilement être renforcée par des preuves empiriques manifestes qui lui donneraient un certain pouvoir causal. Je pense à 2 types de preuves. En amont, tout d'abord, il suffit de retracer la carrière véritable de ces instruments, qui ne sont pas nés dans les années 90, mais bien avant, hein, qui ont été forgés dans les années 60 par des économistes clairement néoclassiques, hein, Coase, John Days, on en trouve aussi une idée chez Guattardi. Et ces instruments ont un peu disparu de la circulation dans les années 70 et 80, pour réapparaître, hein, mais avec une certaine forme de virginité normative, comme pouvant être acceptée par tous. Mais dès l'origine, hein, ces instruments ont été pensés par des auteurs, ne faisant pas mystère de leur croyance dans les vertus du marché. Et puis, en aval, on peut aussi essayer d'observer les effets que ces instruments sont susceptibles de créer, et qui correspondent davantage au sens que j'ai évoqué que d'autres sens que l'idée d'une efficience, par exemple, environnementale ou économique. Par exemple, si on regarde, je l'ai dit, mais on a vu naître, dans les années 90 aux États-Unis, des associations de protection de l'environnement qui se sont spécialisées dans l'achat des quotas d'émissions d'acide sulfurique pour les retirer du marché et les neutraliser. Et il en existe aujourd'hui en Europe, hein, notamment en Allemagne, il en existe qui aussi achètent ces permis pour les retirer du marché. Et lorsqu'on va sur la page internet, je me suis amusé à le faire la semaine dernière, de ces agences de protection, on voit un plaidoyer pour l'instrument coasien et on chante les louanges du marché, etc. C'est assez amusant. Bien. Donc, on peut par la suite mener une enquête plus explicative pour donner une plausibilité causale à cette interprétation, mais je pense, et je pense d'ailleurs que c'est grosso modo ce que dit aussi Weber, hein, la compréhension doit être première, hein, il faut comprendre avant que d'expliquer. Et pour conclure, alors c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, je voudrais conclure avec cette citation de Wittgenstein, très amusante, assez connue, qui écrit « Les gens qui demandent continuellement pourquoi, ceux qui veulent toujours donner une explication, sont comme des touristes qui se tiennent devant un bâtiment en lisant le Baedeker, qui est un guide de touristes allemands, et que la lecture de l'histoire de la construction, etc., empêche de voir le bâtiment. Et je pense que c'est à peu de choses près ce qu'on pourrait reprocher aux approches purement explicatives. C'est un peu l'attitude face au texte de ceux qui vont souvent trop loin dans l'histoire sociale des idées. C'est aussi l'attitude des approches cognitives des politiques publiques qui, à force de chercher les preuves de l'influence de telle ou telle idée, nous font oublier de quelle idée il s'agit. Hein, on sent bien à les lire qu'il y a une influence, mais on se demande souvent de quoi. Voilà, je vous remercie.
Alors, on a beaucoup parlé ce matin des rapports entre philosophie et politique, entre théorie et pratique. Là, je crois qu'on y est, hein, on est dans la science politique, parce que de quoi parlons-nous aujourd'hui, finalement? C'est quand même de cette question qui se pose au doctorat du CESPRA, c'est-à-dire qu'on fait de l'histoire des idées ou de la philosophie politique, mais qu'on doit ensuite, d'un point de vue disciplinaire, venir sur le terrain des politistes. Que fait-on de cette spécificité, de cette formation théorique? Comment faisons-nous pour appréhender des thématiques du temps présent à partir d'une démarche théorique? Je crois qu'avec Sébastien Carré, on a une exemplification de cette tension, de ce dilemme, une exemplification qui n'est peut-être pas, disons, d'une immense limpidité, étant donné la technicité tout de même de cet objet de la science politique, en l'occurrence une question précise des politiques publiques de l'environnement, mais qui, je pense, nous permet néanmoins de réfléchir à quelques éléments de ce débat entre théorie politique et science politique. Alors, je rappelle que Sébastien Carré est l'auteur d'une thèse sur les libertariens américains, une thèse qui a donné lieu à deux ouvrages, et j'y insiste parce que vous allez voir, ça rejoint mon interrogation. Un premier ouvrage sur la sociologie du mouvement libertarien aux États-Unis, suivi d'un second sur la pensée libertarienne américaine. Et ce que j'observe en rendant compte de ces deux publications, c'est qu'à partir d'un même travail doctoral, deux publications bien distinctes, l'une, disons, relevant de la sociologie politique et l'autre de la théorie politique. Donc, l'interrogation qui était la mienne face à ce constat, c'était si tu avais eu à ne publier qu'un ouvrage finalement à partir de ta thèse, comment tu aurais articulé ces deux aspects que tu as pu là opportunément sans doute distinguer. Parce qu'une fois encore, c'est un peu toute la question qui est la nôtre aujourd'hui, à savoir tenir ensemble, réfléchir de concert ces dimensions théoriques et empiriques. Et dans la présentation que tu viens de faire, c'est un peu l'inverse de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que ce n'est plus la distinction, mais là, bien au contraire, une implication très étroite, où pour le coup, j'ai un peu de difficulté à repérer, une fois encore, quel est le pont, quelle est la nature du pont qui s'établit entre la dimension théorique de ta réflexion sur, disons, cette typologie des éthiques environnementales que tu introduis, et puis ensuite l'évocation de cette politique publique particulière. Est-ce que la démarche théorique peut permettre autre chose et plus peut-être qu'un simple étiquetage ex post d'une politique particulière? Une fois encore, comment tu évoquais en conclusion, tu posais cette question de quelle idée il s'agit. Là aussi, c'est peut-être, je poserai la même, comment les idées tiennent encore face à leur confrontation à un cas précis qui est celui que tu étudies.
Bien, alors, je vais répondre rapidement à la première question. Si j'avais eu le choix entre l'un des deux livres, j'aurais choisi les deux, parce que, en fait, c'est des contraintes éditoriales, et la première personne qui a accepté l'ouvrage m'a demandé de l'expurger de tout ce qu'il y avait de sociologique dedans.
Oui, mais pourtant, ta thèse, elle tient les deux ensemble. Donc,
ma thèse, effectivement, tient les deux ensemble. Les deux livres auraient été renforcés si ils avaient été, publiés en même temps. Pour l'implication, alors justement, ce que j'essaie de montrer, c'est que oui, les idées tiennent, ou une partie des idées tiennent, quels que soient les usages qu'on en fait. En tout cas, dans l'idée qui habite plutôt les instruments dont je parle, les instruments de marché, pour lutter contre l'environnement, ont des usages qui n'épuisent pas complètement leur sens. C'est-à-dire qu'on les utilise parce qu'ils sont pratiques, parce qu'ils ne sont pas trop contraignants, puisque politiquement ce sont peut-être les seuls que l'on peut mettre en place, mais cela n'enlève rien aux idées que l'on permet d'identifier par leur carrière et, à mon avis, par la typologie que je traite. Je ne sais pas si...
J'ai enfin compris ce que voulait dire cap and trade, donc je suis satisfait. Non, vraiment, je vous remercie.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Daniel Tanguay.
J'aurais une question. Au fond, en vous écoutant, la solution, pour rappeler un peu libertarienne, qui est la dernière solution, nous semble égocentrique, écologiste, il me semble être finalement la solution, la bonne solution. Non, pas vraiment.
Ah non, moi je suis politique, j'ai fait vœu d'abstinence axiologique. Je ne me prononce pas, je plaisante, mais je ne dis pas que c'est la meilleure.
Parce qu'en vous entendant, j'avais l'impression quand même que la dernière semblait être celle qui était politiquement la plus sensée. Et même à quelque part, vous disiez c'est celle qui produit les résultats, qui marche en quelque sorte, donc et vous dissociez, vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus.
Si, alors justement, l'un des rôles peut-être là, ici, de l'historien des idées, c'est d'inciter les gens qui la défendraient, qui défendraient cet instrument, à réfléchir sur le sens de cet instrument. Et ce que je fais, c'est que j'exhibe un sens qui est peu envisagé. Et justement, là, je suis passé un peu vite. Ce que je voulais dire, c'est que plutôt que de discuter de son efficience, de son efficacité, on devrait plutôt s'interroger à avoir un vrai débat éthique autour de cet instrument. Ses opposants devraient souligner, je crois que Sandel le fait d'ailleurs, les deux marxistes à Sandel, on a cette idée qu'on a une marchandisation des choses qui peut être et qui doit être critiquée dans cet instrument. Et ce que je disais, c'est que ceux qui le défendent, plutôt que de souligner simplement son efficacité, peuvent aussi, c'était une stratégie de défense de cet instrument, peuvent aussi souligner sa capacité supposée à résoudre à sa manière le principe, enfin, le pluralisme des valeurs. C'était qu'une suggestion. Moi, je suspends mon jugement.
Je voulais poser deux questions. Parce que j'imagine une réaction philosophique. L'enjeu de la table ronde. Alors, la première, c'est une réaction de philosophie sociale. Disons, là, si je reprends votre tableau avec les valeurs intrinsèques et extrinsèques, croisées avec holisme et individualisme, la chose qui manque, c'est la société. Parce que c'est-à-dire, ce que vous mettez derrière holisme, c'est la nature, en fait, donc c'est la totalité naturelle. Et ce que vous mettez derrière individualisme, c'est l'individu, soit l'espèce humaine, soit l'individu singulier. Donc, on a l'individu, l'espèce humaine et la nature. Il n'y a pas la société. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer les coûts sociaux de la pollution si on n'a pas l'idée de société? Ça, c'est la première question. Et ça, c'est disons, une réaction de philosophie sociale. Puis, j'ai une réaction de philosophie politique. Mais je venais de bloquer ma réaction en disant que vous ne vous engagez pas. Mais disons. Mais il faut prendre la question de la racine, je pense. C'est-à-dire, je la prendrai comme ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler d'éthique libérale à partir de l'encontre de la façon dont vous la décrivez? C'est-à-dire, ça apparaît comme une éthique qui n'est pas une éthique. Alors, des deux choses l'une, soit c'est la position qui consiste à suspendre les jugements de valeur, donc à certains intérêts. Donc, ce n'est pas une éthique, c'est l'idée qu'on ne peut pas y avoir de position éthique. Ça, c'est la première possibilité, pour ne pas avoir une doctrine compréhensible. Soit on dit ce qui me paraît la conclusion, soit on dit ce qui est autodestructible, ça consiste à dire que le libéralisme est une doctrine compréhensible. Donc, en fait, il y a une valorisation des intérêts. Alors il y a une éthique libérale, c'est-à-dire qu'on valorise les effets sociaux à long terme de la promotion de la liberté. Mais libérale. Mais voilà, c'est en ce sens-là qu'on parle d'éthique libérale, sinon dans la première position c'est juste à cause du conflit qui a supposé engendrer le fait qu'il y a pluralisme de valeurs, c'est-à-dire en supposant qu'il n'y a pas d'accord possible, on met entre parenthèses toute éthique, donc c'est pas une position éthique. Bon, ça c'est vrai. Donc si on creuse un peu, c'est de savoir est-ce que le sociologue peut analyser les trois options, commande, contrôle, écotaxe et cap and trade, sans d'avoir une position à lui concernant ce qui est l'éthique, qu'est-ce qu'il mérite, qu'est-ce qu'il a le droit d'être appelé éthique ensemble et social. Voilà, les deux.
Alors, je réponds d'abord à la dernière question. Il y a une éthique libérale égocentrique, le mot est peut-être fort pour toutes les défenses libérales de l'environnement, mais il en existe une que l'on trouve notamment chez Ayn Rand, qui défend une éthique de la vertu et qui incite l'homme donc, à se faire maître et possesseur de la nature. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Bon, il faut soumettre la nature. Mais effectivement, ce que j'entends par éthique libérale, une manière de réconcilier toutes les doctrines compréhensibles. Et dans ce cas-là, effectivement, ce n'est plus une éthique. Mais c'est une défense libérale de l'environnement. Le mot éthique, là, est effectivement fort. Et j'avoue qu'il y a une dissymétrie par rapport aux autres, et notamment par rapport aux éthiques profondes. Type écologique qui défend une théorie de la valeur intrinsèque et un changement que l'homme.
Un problème de défendre justement en disant ça produit des vertus. La libération des intérêts produit des vertus. C'est la fameuse idée qui se pouvait être publique finalement. Oui. C'est tout simple. Ça, à ce moment-là, on pourrait parler d'éthique. Si vous voulez juste.
Oui, mais j'ai compris.
Oui.
Et je suis d'accord, je confesse. Concernant la philosophie sociale, alors, n'a pas été clair, je la remets peut-être ma distinction.
Oui.
C'est celle-ci. Voilà. Alors effectivement, ici, la société n'est pas là,
ouais.
Mais là, elle est là, si vous voulez. Ce que j'entends par holis, je le mets pour société, c'est-à-dire que la nature a une valeur qui est relative non pas à l'individu, mais à l'homme dans son ensemble, à la société. Et lorsque je montre que la taxe pigouvienne, finalement, est sous-entendue par ce type d'éthique. Puisque la pollution, et donc l'objet pollué, fait l'objet d'une valorisation sociale qu'exprime la taxe.
Si, si, ok. C'était juste pour dire que si on développe cette idée de coûts sociaux, si on s'enfonce dans l'idée de coûts sociaux, après, c'est un univers. Parce que par exemple, tout toute société ne se rapporte pas de la même manière à la nature, on ne la conçoit pas de la même manière. Vous voyez, donc, c'est ça. C'est bien un enjeu en soi de comprendre en réalité l'idée même d'une relation entre société et la nature. C'est peut-être là-dedans qu'on trouve une alternative qui ne tient pas dans le tableau, finalement. Parce que, en l'appelant anthropocentrique, on a quand même l'idée que c'est l'homme, l'espèce humaine, en relation à son environnement, quelle que soit la société. Ce qui est la perspective, disons, classique. Bon. Si on dit non, l'humanité en réalité, c'est plusieurs sociétés, alors chacune aura son rapport. Et il faut voir les modernes. Bon. Non, c'est une
question.
C'est une question juste de clarification. Quel est le rapport que vous établissez entre les éthiques et les politiques correspondantes? Est-ce que c'est un rapport d'implication? Si je suis égocentrique, je dois soutenir les causes le cap and trade. Est-ce que c'est un rapport empirique? Ceux qui sont égocentriques, il se trouve que... Quel autre type de rapport établissez-vous entre les éthiques et les politiques correspondantes? Une autre possibilité, à part empirique et logique, c'est, si vous les êtes vraiment weberien, c'est l'affinité élective. Il y a une forme de stabilisation réciproque entre l'égocentrisme et les causes individuelles. Donc, parce que quand vous dites sous-entend, vous prenez la plus forte de tous. Si je suis égocentrique, je dois être. Est-ce que vous voulez aller jusque-là?
Non, le mot est fort, effectivement, serait plutôt une affinité élective. Mon point de vue, moi, le point de départ serait plutôt aussi ce qui est empiriquement observable. Ces instruments sont justifiés implicitement par des éthiques, celles que j'ai identifiées. Et mon idée, c'est pas de dire quels sont les instruments que devrait défendre tel ou tel partisan de telle ou telle position éthique.
Donc ça peut être une coïncidence que les égocentriques... Il n'y a pas de rapport logique. Si vous dites que c'est empirique, c'est juste, il se trouve que ce sont des gens comme ça qui soutiennent cette thèse comme ça.
Non, parce que quand on regarde dans les faits, on s'aperçoit que ceux qui défendent, c'est là où c'est compliqué, qui défendent ce que j'appelle éthique égocentrique, sont pas favorables au cap and trade.
Et donc ?
Alors, parce que c'est pour alors, c'est ça qui brouille aussi tout le message. Par exemple, aux États-Unis, les libertariens refusent le cap and trade qu'a voulu instaurer Obama. Pourquoi ? Parce que pour eux, tout simplement, l'émission de CO2, ce n'est pas de la pollution. Ils remettent en cause les causes anthropiques du réchauffement climatique. Donc pour eux, l'émission de CO2, ce n'est pas de la pollution. C'est de la respiration.
Oh, ben là, le souffle au coupe.
Je peux vous poser une question?
Bien sûr.
Ça peut être très naïf, ça. Parce que je pose des questions très courtes. Comment es-tu arrivé à ce sujet? Après questionnement, après le parcours intellectuel, je veux dire. Comment tu t'arrives à trouver que cette question était importante, centrale, et te permettait de développer un questionnement de base?
Alors, c'est une bonne question. Je me la pose à moi-même. Alors, j'insiste, hein, et c'est vraiment qu'un projet. Je n'ai pas à me mener encore de... Mais c'était à la suite d'une recherche sur l'influence des think tanks libertariens spécialisés dans l'environnement sur la première administration Bush. Par exemple, le premier secrétaire de l'Intérieur de Bush, donc l'équivalent du ministre de l'Environnement, Gail Norton, était très clairement une libertarienne qui avait travaillé pour des think tanks libertariens spécialisés dans l'environnement. Et donc je m'étais amusé, alors là, selon une approche cognitive très simple, explicative, voir l'influence hein, à travers les réseaux d'acteurs de cette idéologie donc, qu'ils appellent le free market environmentalism et sur la politique environnementale de la première administration.
Donc la question était très... comment dire... le périmètre ou le questionnement était très clair. C'est ce que j'avais pensé à la question de Camille au départ. La question était dans un périmètre tel que peut-être, je ne sais pas, mais les questions que Francesco et ses collègues Tabatabatosé avaient du mal à entrer dans toute leur ampleur philosophique. Quand on se pose cette question en tant que d'État, est-ce que je me trompe? Est-ce que tu as perçu l'impression que tu as un périmètre de ton questionnement au-delà duquel il n'était pas question d'y aller? Ou tu as posé toutes les questions que. Je sais pas. Enfin, je veux dire, quand on se pose. Une question peut-être au centre de notre débat. Quand on se pose par exemple dès le départ une question sur mon influence ou les types de raisonnements que certains acteurs peuvent traduire en action, on n'élargit pas peut-être l'interrogation pour juste se poser les rôles des sociales comme les tout qu'il faut considérer, ou peut-être pas, ou peut-être c'est les cas des tout lui-même qui impose cette question. Je ne sais pas, je pose la question.
Normal, je suis sorti de manquer quelque chose, mais il me semble que l'enjeu aussi, un des enjeux de ce que tu essayes de faire là, c'est quelque part de dire aux personnes qui font des politiques publiques, sociologues, politistes, etc., que derrière des choix techniques et neutres de politique publique, il y a des présupposés éthiques, etc., que l'historien des idées ou l'éthicien ou le philosophe, etc., peut retrouver et en quelque sorte dire à celui qui avait l'impression d'être axiologiquement neutre que non, il y a des présupposés éthiques derrière. J'ai l'impression que c'était un petit peu ça l'enjeu de ta présentation et ce pourquoi tu t'étais lancé dans ce type de recherche, non ? Mais non. Je me trompe peut-être.
Si, ça je le fais, mais c'est ce que prétendent aussi faire ceux qui font de la sociologie des instruments, hein, ce que j'ai mis dans les citations. Mais ils le font sans un détour par l'analyse des textes et des idées. Voilà. C'est le même projet.
Et donc c'est une volonté de plus-value par rapport à ce que.
Oui. Non, c'est...
Oui, je suis une remarque parce que j'ai l'impression que votre propos permet de relier de façon féconde justement le débat qu'on a eu ce matin sur le fait que la philosophie politique normative allait trop loin et se prenait de manière syracusienne pour une experte. Non, mais c'était ça le point. Et que du coup, elle pêchait par précaution ou par des présupposés trop grands et trop loin du réel aussi. Et que là, finalement, vous vous arrêtez, là en gros, il devrait s'arrêter aussi. C'est-à-dire que vous questionnez le fondement, non pas moral, comme on l'a vu ce matin, mais le fondement éthique des politiques publiques à partir de cette méthode interprétative, mais sans ensuite vous permettre d'aller trop loin et de donner des instruments fins d'expertise. Mais vous invitez à un questionnement sans trop attendre du point de vue pratique de ce questionnement, mais en le laissant, en le mettant en lumière pour ce qu'il est et ensuite pour la réflexion qu'il peut apporter précisément aux experts, mais sans se faire lumière d'expert. Je trouve qu'il y a un point d'équilibre que vous installez dans votre façon de travailler, très intéressant.
Merci.